Bonjour à vous tous que j'aime. Quand on prépare un message, il y a toujours une phase d'angoisse. Je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres prédicateurs, en tout cas c'est comme ça pour moi. Je ne sais jamais ce que le Seigneur voudrait que je partage. Et il me fait lambiner au fur et à mesure que le dimanche fatidique se rapproche. Et puis là, j'ai eu un peu cette conviction, semble-t-il, de vous parler du premier chapitre, de la première épître de Pierre. Et j'ai dit, Seigneur, tu sais, il est quand même pas facile ce chapitre. Mais c'est celui-là. Bon. Alors, soyons obéissants. Donc, première épître de Pierre, le premier chapitre. Je vais vous le lire dans la version du Semeur. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ, cet Esprit était en eux, et annonçaient à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit-Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, « Soyez saint, car je suis saint ». Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, « Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs, l'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Donc, vous voyez, dans les deux premiers versets, on voit qu'il s'agit d'une lettre qui a été écrite par l'apôtre Pierre à des chrétiens qui vivent en Asie mineure, probablement d'origine juive et païenne. Tout à fait à la fin de la lettre, au chapitre 5, Pierre dit qu'il écrit de Babylone et qu'il transmet les salutations de l'église de cette ville. Alors, les théologiens discutent pour savoir s'il s'agit de la vraie Babylone dans l'Irak actuel, capitale du pays où les Israélites avait été déporté au VIe siècle avant Jésus-Christ, ou bien si c'est une façon figurée de désigner Rome, dont l'on sait par l'histoire profane que Pierre y serait mort en martyr. De toute façon, le nom de cette ville évoque dans la Bible un système mondain qui s'oppose au peuple de Dieu et le persécute. Et c'est un des thèmes principaux de cette épître, encourager les chrétiens qui vivent au sein d'un monde ennemi de Dieu et agressif. Il est intéressant de voir comment Pierre désigne ses croyants. On a lu qu'il dit qu'ils vivent en hôtes de passage, selon la traduction du Semeur. Le terme désigne des étrangers séjournant temporairement dans un endroit donné. Mais s'ils sont comme des étrangers là où ils séjournent, en réalité, ils sont élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, avons-nous lu. S'ils ne sont pas reconnus, intégrés, comme on dit, dans le pays où ils séjournent, en revanche, ils sont bien connus, choisis, et ce depuis longtemps, par le Père, le Créateur de ce monde qui leur est hostile. L'apôtre Paul utilise un peu la même expression en Romains 8, verset 29. Il dit en effet, « Ceux que Dieu a connus d'avance, hein, c'est le même mot, préconnu, il les a aussi destinés d'avance, à devenir conforme à l'image de son Fils. » C'est ça notre avenir. Peut-on imaginer une destinée plus glorieuse? Le même Paul dit de lui-même et de ses collaborateurs, en proie à toutes sortes de difficultés et de périls possibles, dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 6, « En toutes choses nous recommandons comme serviteurs de Dieu, comme inconnus et bien connus. » Il veut dire par là, non reconnus par ce monde, qui dénie toute valeur à leur foi, mais bien connus de Dieu. Et cela non pas par leur mérite propre, mais parce qu'ils sont les objets de l'élection divine. Dans la deuxième partie du verset 2, il est écrit « Vous lui avez été consacrés par l'Esprit, au Père, hein, pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. » Nous avons là une belle formule trinitaire. Les élus sont consacrés par l'Esprit au Père pour obéir à Jésus-Christ. Le texte dit littéralement « pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ ». Formule un petit peu difficile. En somme, si ces croyants, il en est de même pour nous, sont élus et préconnus du Père, c'est pour bénéficier de la purification opérée par l'effusion du sang de Christ, mais aussi pour l'obéissance à celui qui est notre roi. Les termes qu'utilise Pierre font allusion au rite de purification de l'Ancienne Alliance, où le peuple bénéficiait du pardon grâce au sang répandu d'une victime, mais s'engageait aussi dans une alliance d'obéissance envers Dieu. Pierre rappelle donc à ses croyants leur privilège extraordinaire d'élus de Dieu, mais aussi leur devoir d'obéissance à leur maître Jésus-Christ. Dans les versets 3 à 5, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Donc, après la formule de politesse chrétienne adressée à ses lecteurs, Pierre bénit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était une façon habituelle de commencer une lettre dans le monde antique du 1er siècle, de rendre grâce à une divinité païenne en l'occurrence. Mais là, c'est à la manière chrétienne. Et cette bénédiction repose sur des motifs extraordinaires et glorieux que Pierre égrène en quelque sorte dans un condensé assez extraordinaire. Il dit « Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a régénérés », c'est-à-dire nous a donné une nouvelle vie. Ceci est à rapprocher de la nouvelle naissance, annoncée par Jésus à Nicodème comme une nécessité absolue, mais aussi offerte à tous les hommes par la puissance de sa résurrection d'entre les morts. Cette vie nouvelle est orientée vers une espérance vivante, qui va largement au-delà de l'horizon terrestre. Vivante parce qu'elle concerne la personne bénie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vivant au siècle des siècles, selon la formule qu'il utilise lui-même dans l'Apocalypse. Cette espérance est aussi celle d'un héritage extraordinaire et à l'abri de toute dévaluation. Et il est conservé soigneusement pour nous dans les cieux. On pourrait dire que le ciel est le paradis fiscal du chrétien, pour reprendre un terme très à la mode en ce moment. Cette espérance vivante et cet héritage sont réservés pour des hommes et des femmes comme vous et moi, et jusqu'à ce que nous en héritions, nous sommes gardés dans la puissance de Dieu. On serait tenté de traduire comme le semeur par la puissance de Dieu, parce que ça paraît plus logique, mais le texte dit littéralement « dans la puissance de Dieu ». Il me semble qu'on peut comprendre dans la sphère de protection de Dieu. Le terme avait originellement une signification de garde militaire. Et nous sommes gardés dans cette sphère de haute sécurité par le moyen de la foi. Donc, tant que nous marchons par la foi, nous sommes dans une sécurité absolue parce que Dieu nous garde dans sa puissance. Et cette garde hautement sécurisée a un but, nous conduire à un salut prêt à être révélé au dernier moment, ce moment d'entrée dans notre héritage céleste. Versets 6 et 7. Voilà ce qui fait votre joie, dit Pierre, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve, elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cette perspective, ce moment-là, fait votre joie, nous dit Pierre. Mais Pierre reconnaît que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, au contraire. Ses lecteurs traversaient des épreuves diverses, probablement des persécutions de la part des païens et peut-être aussi des juifs hostiles au christianisme. Bien sûr, l'adversité, les épreuves ne sont pas une partie de plaisir, mais elles sont sous le total contrôle de celui qui veille avec puissance sur les siens. Et elles ont un but, éprouver la valeur de la foi. Cette foi qui triomphe de l'adversité vaudra aux croyants qui ont tenu bon louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, c'est-à-dire lors de son retour pour juger et régner. Autrement dit, notre ténacité et notre persévérance au travers des épreuves ou des tentations que nous rencontrons dans ce monde glorifie le Seigneur et il sera heureux de nous faire partager sa gloire lors de son avènement. Au verset 8, Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Ça, c'est vraiment un des fruits extraordinaires de la vie divine. Pierre, lui, il a vu le Christ, ayant partagé sa vie pendant 3 ans, ayant assisté à son arrestation, à son supplice, et puis il l'a revu après sa résurrection. Ils ont même eu des conversations sérieuses ensemble. Il est certainement heureux et ébloui de constater que son peuple l'aime sans l'avoir vu, ce qui relève humainement du miracle. Jean a écrit dans sa première lettre, au chapitre 4, « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Cela montre bien que cet amour va au-delà de la reconnaissance pour le pardon de nos péchés et de l'assurance de la vie éternelle. Il a une origine surnaturelle. Il est versé dans nos cœurs par Dieu. Il échappe totalement à l'expérience humaine normale. Avons-nous réfléchi que si nous sommes là ce matin, c'est à cause de cet amour? Et cet amour est la source d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, nous dit Pierre. Il utilise des mots comme indicible, ineffable. Ça contient le sens d'un mystère divin, excédant le pouvoir de la parole ou de la pensée. Cette joie, selon un auteur qui commande ce texte, défie tous les efforts humains de compréhension ou d'explication. Au verset 9, « Car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. » Ou bien recevant le but de votre foi, le salut des âmes. Par la foi, nous expérimentons dès maintenant ce salut qui sera complet lors de l'apparition de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux avertit solennellement au chapitre 2 « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» La foi, au contraire, n'est pas négligente, elle s'empare avec empressement et reconnaissance de ce salut qui lui est offert. Verset 10, ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit-Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Dans ces 2 versets, Pierre montre maintenant à ses lecteurs à quel point ce salut est un événement extraordinaire dans l'histoire des hommes. Il est l'aboutissement du plan gracieux de Dieu pour sauver ceux qui croient. La loi donnée à Moïse et qui représente les exigences de la sainteté de Dieu, avait fait la démonstration de l'incapacité de l'homme tombé dans le péché à l'observer. Alors, Dieu met en œuvre un de ses plus merveilleux attributs, sa grâce. Et cette grâce devait se manifester à un moment précis de l'histoire des hommes, ce que les prophètes hébreux ont cherché à savoir avec zèle, tellement c'était étonnant, passionnant et glorieux. L'Esprit de Christ qui était en eux, bien avant que le Fils éternel de Dieu ne prenne chair sur cette terre, leur avait indiqué que cet événement inouï ne se passerait pas de leur temps, mais plus tard, et que ce salut ne serait introduit que par les souffrances du Messie et sa glorieuse résurrection. Les apôtres, et Pierre particulièrement, ont eu l'honneur d'annoncer publiquement la bonne nouvelle du salut offert à tous les hommes grâce à la mort expiatoire de Jésus-Christ et à sa résurrection. Pierre l'a annoncé, comme vous le savez, le jour de la Pentecôte et aussi par la suite. C'est pour cela que Pierre parle de la bonne nouvelle annoncée par la bouche des apôtres, mais sous l'action de l'Esprit-Saint envoyé du ciel qui s'est manifesté de façon spectaculaire le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et Pierre nous dit que les anges eux-mêmes désirent regarder de près cet événement. Le verbe utilisé signifie « tendre le cou à travers la fenêtre ». Comme on le fait pour un événement étonnant et bouleversant. après avoir rappelé à ses lecteurs le caractère extraordinaire du salut dont ils sont bénéficiaires, Pierre en appelle maintenant à leur responsabilité d'honorer Dieu par leur conduite. Verset 13, « C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. » Donc ce paragraphe, enfin ce verset commence par « C'est pourquoi ». Donc ce qu'il va dire est la conséquence de ce qu'il vient de leur rappeler. Littéralement, alors là, le sommeur a paraphrasé, hein, mais dans le texte original, c'est « ayant saint les reins de votre entendement ». Formule bizarre. Hein. En fait, c'est une expression hébraïque que les lecteurs de l'époque comprenaient probablement, mais qui, telle qu'elle est, nous paraît bien mystérieuse. Ça veut dire « mettre une ceinture pour relever les pans de sa robe » afin de ne pas être gêné dans ses mouvements. Ça relève d'une décision à ne pas se laisser aller. Et ça concerne l'entendement, c'est-à-dire les pensées. Finalement, ça veut dire contrôler délibérément notre façon de penser qui gouverne toute notre conduite. Et Pierre ajoute, dans le texte original, c'est pas dans la version du semeur, « étant sobre ». Ce terme n'apparaît pas dans la traduction du semeur, qui a paraphrasé simplement en disant « en ne vous laissant pas distraire ». Il s'agit de la sobriété vis-à-vis de l'alcool, normalement, qui fait divaguer nos pensées et aussi notre comportement. Pierre ne vise pas uniquement l'alcool, bien sûr, mais tout ce qui peut pervertir nos pensées, nous en enlever la maîtrise. Et quand il dit « espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée » à la révélation de Jésus-Christ, je ne pense pas que Pierre veuille dire par « espérer parfaitement, soyez tout à fait sûr », comme il l'a déjà dit plus tôt. Mais c'est plutôt « que votre comportement reflète parfaitement votre espérance ». Les versets 14 à 16, « comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saint, car je suis saint. » On voit que Pierre appelle ses lecteurs des enfants d'obéissance. C'est cela, de vrais enfants de Dieu. Il l'avait dit dans l'introduction de sa lettre, ils sont élus pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus qui vit en nous nous rend capables d'obéir, ce qui nous était impossible avant de l'avoir reçu. Mais être capable ne signifie pas qu'on le fasse. Il fait appel à notre volonté de vivre saintement. Il parle de nos convoitises d'autrefois, pendant le temps de notre ignorance. Ce temps est révolu. Je pense que nous devons reconnaître que souvent nous nous comportons comme si ce temps n'était pas totalement révolu, comme si c'était le temps d'une sorte de transition en douceur entre notre ancienne manière de vivre et celle à laquelle nous sommes appelés. Mais ce n'est pas du tout ça. Le Seigneur attend de nous un changement radical, comme on le voit dans le verset 16, « Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Parce qu'il est écrit « Soyez saints, car moi je suis saint. » La Pierre cite Lévitique 19, verset 2. Notre Père Céleste attend de nous une conduite sainte, c'est-à-dire séparée de ce qui faisait notre vie avant notre conversion, vie qui était menée par nos convoitises. Au verset 17, « Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement, celui qui juge tout impartialement tout homme selon ses actes, par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. » C'est très bien d'évoquer Dieu comme notre Père. C'est juste et c'est béni. Mais attention, il juge avec une totale impartialité l'œuvre de chacun. Ce n'est pas notre salut qui est visé dans ce jugement, mais la façon dont nous honorons celui que nous nommons notre Père et qui juge nos œuvres. Sont-elles saintes ? Craignons de le décevoir, voire de le déshonorer, et conduisons-nous soigneusement en conséquence. C'est ça mettre une ceinture sur nos pensées et nos actes. Les versets 18 à 21. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or, non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau, pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces derniers temps qui sont, dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Donc, Pierre leur dit à ces croyants de l'Asie mineure, vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères. Ça ne veut pas dire que tous les pères d'Israël ou même des nations païennes avaient une conduite toujours vaine. Mais globalement, la majorité d'entre eux se contentaient d'une observance superficielle de la loi sans que leur cœur soit engagé. Dans la Nouvelle Alliance, au contraire, la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement. Ça, c'est Paul qui dit ça dans Tite 2, verset 11. Quel contraste avec l'enseignement légaliste et erroné des pères. Et vous avez noté que c'est la grâce de Dieu qui enseigne à mener une vie sainte. Et le prix de ce rachat de notre vaine conduite n'est rien moins que le sang précieux de Christ lui-même. Et Pierre rappelle qu'il a été l'agneau de Dieu, sacrifié pour l'expiation de nos péchés, lui qui n'avait jamais commis de péché. Et cet agneau, Pierre le dit, préconnu dès avant la fondation du monde. On est plongé là dans le mystère de la préconnaissance de Dieu de toutes choses, y compris de la chute de sa créature et de son besoin d'un sauveur parfait avant même que le monde visible n'existe. Mais manifesté à la fin des temps pour vous qui par lui croyez en Dieu. Pour Pierre, il s'agit bien de la fin des temps. Même si pour nous, cette fin des temps dure depuis 20 siècles. Mais il faut voir cette fin des temps comme le temps de la réalisation du plan de Dieu de sauver ceux qui se confient en lui, et cela par pure grâce. D'ailleurs, Pierre dit que c'est par lui que vous croyez en Dieu. C'est l'Esprit de Jésus qui sollicite notre esprit pour qu'il se tourne vers Dieu et saisisse le salut qui lui est offert. Les versets 22 et 23. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Donc Pierre, ce verset, commence une nouvelle phrase, d'ailleurs dans l'original, Darby traduit, « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment d'un cœur pur, vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. » Phrase un petit peu difficile. Je pense qu'il faut voir ici qu'il ne s'agit pas de la purification de nos péchés, qui est l'œuvre du Seigneur Jésus lui-même, mais d'une démarche active de notre part, de purification de nos pensées et de nos comportements, rendue possible par la régénération de nos cœurs, par cette semence incorruptible qui est la vivante et permanente parole de Dieu. Cette purification volontaire de nos pensées est le secret, vous l'avez noté, d'une affection fraternelle sans hypocrisie et ardente. Et elle est le fruit de notre régénération par la vivante et permanente parole de Dieu. Vous voyez à quel point il est important que nous nous plongions dans la parole de Dieu. C'est elle, parce qu'elle est vivante, que nos pensées sont régénérées, et de là aussi tout notre comportement. Dans les versets 24 et 25, Pierre cite le prophète Ésaïe. En effet, il est écrit « Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Je pense qu'il cite le prophète Ésaïe pour mettre en évidence le caractère temporaire et corruptible de notre vie charnelle, en contraste avec la parole du Seigneur qui, elle, est vivante et éternelle. Les œuvres de la chair passeront sans laisser de traces, alors que celles qui sont produites par l'Esprit ont une valeur éternelle. Et dans la deuxième partie du verset 25, il conclut « Or cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. » Cette parole, qui telle une semence incorruptible nous a régénérés, est celle qui est annoncée à ceux qui mettent leur confiance en Dieu. C'est le mot « rhéma » en grec, hein, qui est utilisé ici pour dire « parole ». Il y a plusieurs mots pour dire « parole » dans le grec. Là, c'est « rhéma », c'est un mot qui signifie la parole dite, celle qui sort de la bouche de Dieu et qui est créatrice. Et c'est ainsi que nous avons été régénérés, en quelque sorte recréés, par cette parole qui a la puissance de nous faire mener une vie sainte et d'aimer véritablement ce qui honore notre Père Céleste. Alors mes amis, comme nous l'a montré Pierre dans cette première partie de sa lettre, nous sommes les bénéficiaires d'un salut extraordinaire, d'un héritage incorruptible, d'une espérance vivante, et tout cela par pure grâce, parce que le Dieu créateur de l'univers nous a élus pour cela dans sa souveraine bonté. Pour autant, durant le temps de notre pèlerinage terrestre, nous sommes soumis à diverses épreuves et attaques de l'ennemi. Notre Père Céleste attend de nous que nous les traversions victorieusement, ce qui le glorifie, mais qui nécessite de notre part une grande vigilance envers le cours de nos pensées dont dépendent nos comportements. Il attend de nous des pensées et un comportement saint comme il est saint lui-même. Et pour atteindre ce but, il a mis à notre disposition sa parole, qui est vivante et parfaitement capable de nous amener à une communion de pensée avec lui. Alors, ne nous privons pas d'en user sans modération, le Saint-Esprit étant là pour nous la faire comprendre.